Shalom Bracha, shalom les Koulam, mais Boker Tov, ça y est, on est dimanche, et donc le dimanche matin, nous avons pris l'habitude de notre petit cours d'histoire de Hanouka. Eh bien, nous arrivons. Eh bien, donc après avoir étudié en long, en large et en travers l'époque de Hanouka, nous arrivons à l'époque de l'après. Alors, la semaine dernière, on ne s'est pas arrêté juste après Hanouka. Nous étions arrivés jusqu'à ces deux frangins, ces deux frères, Aristobulus numéro 2 et Hyrcanus numéro 2, qui se font la guéguerre tous les deux, les fils d'Alexandre Yanaï et de Shlomtzion Amalka, et qui vont se faire la guéguerre tous les deux, parce que les deux veulent être et roi et Kohen Gadol, toi, par rapport à mon frère. Qui est cet homme puissant de la région? Eh bien, les amis, à ce moment-là, l'homme fort s'appelle Pompeius Magnus. Pompeius Magnus et Pompée le Grand, c'est l'arrivée de Rome dans la région. Rome, la nouvelle république de Rome, est en train de gagner du territoire, de grandir, de conquérir à l'est comme à l'ouest. Et très vite, les Romains arrivent en Grèce et vont s'occuper de l'Empire grec, qui est en dislocation, qui n'est plus du tout, qui est plus là concrètement. Et donc l'Empire romain va commencer à s'étendre. Et donc c'est dans cette optique-là que Pompée, allant vers l'est, alors que à l'ouest c'est un autre concurrent romain dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Jules. Eh bien, Pompée arrive à l'est, et à l'est, eh bien voilà ce qui se passe. Il commence très rapidement à conquérir complètement la Syrie, mais ce n'est pas la Syrie à l'époque, c'est l'Empire Séleucide, les Séleucos. Eh bien, il y a entre parenthèses, il vient de mener une guerre contre l'Empire Parthe, c'est-à-dire les... L'Empire Parthe, c'est les résidus de l'Empire Perse. Il a également calmé tous les pirates de la Méditerranée. Il a le contrôle de la mer, il a le contrôle de l'Est. Et donc, à ce moment-là, Pompée commence à comprendre qu'il a envie de revenir vers Rome. Mais pour cela, il ne peut pas avoir dans la région une petite guerre fratricide. Donc, pas du tout, ça lui plaît pas du tout quand il reçoit la lettre des deux frangins, Aristobulus et Hyrcanus. Eh bien, il se dit, pas de problème, j'arrive. Nous sommes en moins 63. En moins 63, Pompée entre en Israël, entre dans ce qu'on appelait Eretz Yehuda, Mamlechet Yehuda, et très vite, eh bien, Pompée va prendre fait et cause pour un des deux frères, à savoir Hyrcanus. Il se met du côté de Yohanan Hyrcanus, numéro 2, aux dépens de Aristobulus, parce qu'il a l'impression qu'ils sont quand même vachement plus organisés. Et donc, il se dit, je vais aller de ce côté-là, ça sera plus simple. Mais il prend surtout fait et cause pour Hyrcanus, parce que celui qui domine les armées d'Hyrcanus n'est pas vraiment ce dernier, mais c'est son numéro 2, son aide-de-camp. Son aide-de-camp est un homme extrêmement intelligent et qui est complètement hellénisé dans sa façon de réfléchir et qui voit en Rome, eh bien, l'avenir et son espoir de l'avenir. Cet homme, il s'appelle Antipatros. Antipatros, Antipater en français, semble-t-il, n'était pas quelqu'un de très sympathique, puisqu'il a donné naissance à l'adjectif antipathique. Donc, il n'y a qu'à imaginer quelle était l'origine. Quoi qu'il en soit, Antipatros a une dent contre le judaïsme et contre le peuple juif. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, il est juif. Non, Antipatros est juif, mais pas tellement. Je vous explique. À l'époque de Alexandre Yanaï, donc du père de Hyrcanus, on a dit que c'était un homme qui a fait beaucoup de conquêtes. Parmi ces conquêtes, eh bien, il a conquis le Negev actuel. Et dans le Negev actuel, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple de Édom. Eh bien, il y a Alexandre Yanaï, il n'a pas laissé le choix aux Édoméens, il les a tous convertis de force. Antipater, Antipatros, est un de ces fameux Édoméens qui a été donc converti de force. Autant vous dire qu'il en garde un goût assez amer et qu'il voit dans l'arrivée de Rome, eh bien, peut-être une possibilité de se détacher finalement de cette colonisation juive. Alors, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, lorsque Pompée prend fait et cause pour Orcanus et pour Antipatros, ben, je vous laisse imaginer tout de suite que la guerre entre lui et Aristobulus s'arrête très rapidement. Parce qu'une fois que tu as l'appui de l'armée romaine, eh ben, t'as bien compris que, ben voilà, c'est terminé. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. À ce moment-là, Pompée, lorsqu'il arrive à Jéricho, eh bien, il va très très vite marcher sur Jérusalem et va dégager Aristobulus de Jérusalem qui se fortifiait à l'intérieur du temple. Et c'est parti. Orcanus devient le maître de la région. Mais attention, il n'est plus à ce moment-là roi. Eh ben oui, Pompée, il a dit, bon, hey, je t'ai aidé, c'est bien gentil, mais c'est grâce à mes légions que tu es là. Donc, eh bien, tu ne seras plus le roi de la Judée, il n'y a plus de royaume de Judée, tu deviendras Nessi Israël. Tu es le chef des Juifs, mais tu n'es pas roi. Ah, bon, très bien. Et il n'a pas vraiment le choix, de toute façon. Tu dis, Alex, et même s'il était juif, les plus grands ennemis ne sortent-ils pas de nos entrailles? Non. Non. Il y a des antisémites qui sont malheureusement sortis de nous, mais autant que je sache, Hitler n'était pas juif, autant que je sache, Amalek n'était pas juif. Alors tu vas me dire, Amalek, il sortait de Esav avec Eliphaz et Timna et tout ça, donc quelque part, oui. C'est-à-dire, si tu remontes, alors on est tous reliés à Adam Harishon. Mais non, on a eu que pas mal de bons antisémites bien de chez nous qui n'étaient pas de chez nous. Ok, donc je pense pas qu'on puisse faire ce genre de rassemblement un petit peu trop rapide. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Une fois que Aristobulus a été mis de côté, eh bien, Rome, ah, nounou. C'est-à-dire, je pense que c'est toi qui as plus des exceptions qui confirment la règle. La majorité des Juifs n'étaient pas antisémites. Faut le dire, hein, quand même. Mais Kitsour, à ce moment-là, Rome a mis en place son emprise sur Eretz Yehuda. On va même d'ailleurs laisser un gouverneur romain en Syrie qui a pour rôle de regarder un petit peu ce qui se passe chez Orcanus et Antipatros. Il s'appelle Gavinius. Mais bon, c'est pas très important. À partir de ce moment-là, Rome est en Israël. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les grandes lignes de l'emprise romaine en Israël? Eh bien, les amis, ces grandes lignes, elles sont au nombre de 6. La première, le plus important pour Rome, Zah Seder. Il faut que l'ordre soit établi, rétabli et gardé. Et donc, eh bien, on va mettre tout simplement en place une légion qui va être là pour aider à maintien de l'ordre et on empêche Aristobulus de revenir, de retenter de reprendre sa place. Mais Kitsour, il faut que le système mis en place où on laisse Orcanus en tant que Kohen Gadol et Nessi Israël, ça reste là, il n'y a personne qui va les en empêcher. Deuxième chose, on va calmer un petit peu les ardeurs des Hashmonaïm. On les a mis en place, ok, d'abord Tababa, mais on va leur grignoter des territoires. Et effectivement, toutes les conquêtes du père d'Orcanus, Alexander, Yanaï, eh bien, vont être retirées de la domination juive. Les Hashmonaïm, le roi, enfin, qui n'est plus roi, le Nasi Hashmonaï Orcanus, ne domine plus que les villes de, finalement, Aré Yehuda, un tout petit peu la Shfela et un tout petit peu Ezor Binyamin. C'est tout. Toutes les villes de la bande côtière, du Negev actuel et de la Samarie ne sont plus entre les mains de la dynastie Hashmonaïte, donc plus entre les mains des Juifs. Donc, on va pouvoir, troisièmement, ramener les Grecs. Et oui, vous vous rappelez qu'à l'époque grecque, il y avait eu le Décapolis, il y avait eu 10 villes grecques qui avaient été mises en place, ces Grecs-là avaient été chassés par Alexandre Yanaï, par les Hashmonaïm qui avaient pris des territoires. Et bien maintenant, les Romains font revenir les Grecs en Israël. Parce que les Romains sont beaucoup plus du côté de la culture grecque que de la culture juive, évidemment. Donc les Romains ramènent les Grecs. Le Décapolis est remis en place. Les Juifs, certains d'entre eux habitent dans ces villes du Décapolis, mais ne sont pas des citoyens de la cité et sont relégués dans les villes grecques à des habitants de seconde zone. À partir de ce moment-là, très vite, on commence à un petit peu se languir de la grandeur hachmonaïte. Au sein du peuple juif, on commence à se dire « Hoppa, c'était quand même mieux avec les hachmonaïm. » Enfin bon, « En mala asot, Quatrième chose qui est mise en place pour bien montrer que les Juifs, c'est plus eux les patrons de la région, on va donner l'indépendance aux Chomronim. Et oui, vous vous rappelez de l'histoire d'Alexandre le Grand qui avait détruit le Mikdash des Chomronim, qui prit cette cause pour nous. Ben, les Romains font l'inverse. Ils vont pas encore détruire notre temple, mais ils redonnent aux Chomronim la possibilité de complètement réadministrer indépendamment leur zone. Et donc, le Chomron devient une zone où il n'y a pas de Juifs. Résultat des courses, eh bien, ça va amener la cinquième chose, c'est que les Juifs sont maintenant dispersés. C'est-à-dire qu'ils sont en Israël, mais il n'y a plus de continuité territoriale entre les Juifs de Yehuda et les Juifs de la Galilée. Au milieu, il y a, eh bien, les Chomronim. À l'ouest, il y a le Décapolis, les villes côtières qui sont sous domination romaine, et à l'est, il y a le Décapolis. Et donc, les Juifs sont assez isolés et, eh bien, finalement, mis de côté. À partir de ce moment-là, on va diviser le pays en cinq parties. Qu'est-ce que ça veut dire cinq parties? Eh bien, on le divise en cinq régions, si vous voulez. La région du nord, avec leur capitale Tsipori, la région de Ever Hayarden, ce qui est aujourd'hui la Jordanie, avec comme capitale Khamtan, la région de Yericho, c'est-à-dire en fait toute la région du désert de Judée, avec comme capitale Yericho, la région de Adorim, qui est en fait le Negev, la région de Pérez. La région de Pérez, c'est un peu plus ou moins le Golan. Et il y a la région de Jérusalem, qui est une région à part entière, qui est un petit peu mise de côté. Comment s'appelle la notion de région en romain, en latin, mais en fait c'est un mot qui vient du grec, ça s'appelle des Sanhedrian. Sanhedrian. Et de là, vous comprenez que ça va devenir le mot Sanhedrin. Et oui, car dans chaque région, il y a un conseil rabbinique qu'on va s'habituer à appeler le Sanhedrin, car ils sont les représentants juifs dans les Sanhedrian. De là, le mot Sanhedrin est rentré dans le peuple juif, entre parenthèses. Bekitsour, à ce moment-là, eh bien, vous comprenez que la grandeur du judaïsme qui avait été mis en place par les Hashmonaïm est complètement tombée. Le judaïsme est toléré par l'Empire romain. Il est ce qu'on appelle religio licita, c'est-à-dire une religion licite, permise, mais c'est tout. Les Romains voient d'un très mauvais œil le judaïsme. Ils sont fondamentalement contre le judaïsme, bien que le tolèrent pour le moment. Les deux grandes choses que les Romains ont en horreur chez les Juifs, c'est le fait qu'ils sont mashritim et tagouf, Britamila, qu'ils détruisent le corps, et l'autre, c'est que ce sont des fainéants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'un jour par semaine, on arrête de travailler? Donc, ils ont un très très mauvais œil sur le judaïsme. Mais bon, les choses sont mises en place de manière assez claire. Seulement, c'est à ce moment-là que le balagan commence. Que le balagan commence, mais pas tellement en Israël. En Israël, les choses sont assez mises en place. Aristobulus, c'est lui qui va être le patron. Il est secondé par, évidemment, on a dit, Aristobulus, Aristobulus, lui, est mis de côté complètement. On essaye de continuer une petite guéguerre, mais ça ne marche pas. Orchenus est le patron. C'est-à-dire, en malasot. Sauf qu'à ce moment-là, à Rome, eh bien, les choses partent en balagane. Partent en balagane complètement. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que Pompée est en train de revenir à Rome, fort de ses victoires à l'Est. Mais il y a un autre homme qui revient à Rome, fort de ses victoires à l'ouest, il s'appelle, vous connaissez, Jules César, Julius Caesar. Et Jules César arrive à Rome également après sa guerre des Gaules, et il est extrêmement populaire, et il est extrêmement puissant. Et avec Pompée, et un troisième homme du nom de Marcus Crassus, eh bien, ils vont balayer quelque part la République romaine, pas encore officiellement, mais quand même, en créant le consulat de Rome. Ils vont créer un triumvirat, c'est-à-dire une tête à trois aigles, qui vont être les trois consuls de Rome, Pompée, Marcus et César. Bon, tout ça c'est très très bien, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Ah, bah chez nous, une fois que Rome a appuyé complètement Orcanus, eh bien, il se trouve complètement renforcé. Il y a une domination complète de Orcanus avec l'appui de la Légion romaine. D'ailleurs, eh bien, au Kenus, on a dit, et le Nasi Kohen Gadol, et Antipatros, qui en vrai, lui, le véritable chef, devient Apoutropous. Apoutropous, c'est aussi une appellation qui va devenir courante en hébreu. Apoutropous, c'est le responsable. Il est le mashgiach, si vous voulez, de tout ce qui se passe ici. Donc, mais ça y est, d'accord. À ce moment-là, eh bien, c'est lui qui est le responsable de gérer le pays de la Judée. Et comme on l'a bien mis en place, eh bien, on est sympa, on lui donne des nouveaux shtachim, il a de nouveau la main mise sur les villes de la bande côtière, à Koltov. Mais, quoi vous dire? Malasot, que, à partir des années moins, on est en moins, à partir des années moins 48, Balagan Gadol, César a tué Pompée, César, Jules, est responsable de ce qui se passe maintenant aussi à l'Est, c'est lui qui va donner un petit peu plus de pouvoir à notre ami Antipatros. Et Antipatros, bah, comment te dire, il a deux fils. Bon, il en a trois, mais il y en a un qui vraiment, il n'est pas dans le coup. Il a deux fils. Un qui s'appelle Hordus, Hérode, et l'autre s'appelle Petzael. Les amis, les choses vont aller très vite. Très, très vite, parce que en moins 43, Antipatros se fait assassiner. Semble-t-il par son fils. Petzael se fait assassiner. Semble-t-il par son frère. Comment te dire? Hérode a une seule envie, une seule vision devant lui, c'est la domination. Il élimine tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre et c'est terminé. Hordus, Hérode, devient le seul véritable patron. Il s'apprête à aller à Rome pour demander l'appui de Rome et faire de lui officiellement le roi des Juifs. Mais le problème, c'est qu'à Rome, on a dit, c'est le balagan. César a tué Marcus Crassus, il a tué Pompée, il est le seul consul, il est le proconsul de Rome, mais César, vous le savez, va se faire assassiner sur les marches du Sénat par Brutus. Ah bah bah ! Alors qu'est-ce qui se passe ? Maintenant que César n'est plus là, que faire ? Eh bien, pendant 2 ans, c'est Cassius, qui est un des membres hauts du Sénat, qui prend le commandement, mais très vite, il est détrôné par Marcus Antonius, Marc-Antoine, en moins 41, c'est lui qui devient le véritable patron de Rome. À ce que faire? À ce moment-là, ben, il se passe un truc incroyable. On a un bonhomme, on est en moins 40, qui arrive, il s'appelle Matitiao Antigonos. Ah ouais, tiens, Matitiao Antigonos. Il est le fils d'Aristobulus. Il dit, moi je reviens, il a loué une armée de Partim, c'est ceux qui étaient en guerre contre Rome, il les a loués, sont des mercenaires, et il veut reprendre son trône. Et bien vous savez quoi? Il réussit. Il va conquérir Jérusalem, entre moins 40 et moins 37, il y a de nouveau un roi Hachmonaï qui est roi de Jérusalem. Bon, très bien, sauf qu'à ce moment-là, Hérode arrive à Rome, et il dit à Marc-Antoine, si tu fais de moi le roi des Juifs, je paye. Et Marc-Antoine le fait nommer au Sénat de Rome roi des Juifs. Sauf que il va falloir maintenant un petit peu, ben comment dire, il va falloir détrôner l'autre. Pas de problème, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, on va donner une armée à Hérode et il va très vite fait détrôner le petit Matitiao Antigonos. Et à ce moment-là, Hérode devient le patron incontesté de la région. Il va faire une guerre rapide, comme je l'ai dit, et lorsqu'il prend le pouvoir, eh bien, les choses sont entendues. C'est terminé. Hérode est le copain d'Antoine, le copain vraiment de Marc-Antoine. Il lui fait construire d'ailleurs une forteresse au nord du Beth-Amigdash qui s'appelle la forteresse d'Antonia. Antoine est très content d'avoir un allié puissant dans la région. Tout va bien. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, il se passe un truc qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu. C'est qu'il y a un mec qui revient à Rome, il s'appelle Octavius. Et Octave était le fils adoptif de Jules César. C'était son neveu en vrai. Et il décide qu'il doit lui-même régner après César. Et donc, eh bien, il lève une armée contre Marc-Antoine. À ce moment-là, c'est le balagan. Parce qu'Antoine, il est copain avec notre ami Hérode. Mais Antoine, il a une femme. Et cette femme, elle déteste Hérode. C'est qui cette femme? C'est la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Et Cléopâtre, elle veut gagner du territoire. Hérode, il veut gagner du territoire. Égypte, Israël. Résultat des courses, Antoine est toujours tiraillé entre sa femme et entre son allié. Mais là, lorsque les combats entre lui et Octave sont de plus en plus puissants, eh bien, Antoine décide de partir. Il part s'enfuir en Égypte et il va continuer le combat là-bas. Là-bas, arrivé en Égypte, il envoie une lettre à Hérode en lui disant « Viens m'aider !» Oui, sauf que Hérode est un stratège. Et il comprend que Octave a l'air beaucoup plus puissant que Antoine. Seulement, tout le monde sait d'un autre côté que faire. S'il dit « Je viens pas » et qu'Antoine gagne, il est dans la mouise. S'il dit « Je viens » mais qu'Antoine perd, il est dans la mouise. Alors, il dit à Antoine « Je viens » mais il vient léat, léat. Et en fait, il va arriver après la bataille. Il arrive après la bataille. La bataille a été terrible, mais très rapide. Et Octave a battu Antoine. C'est terminé. Octave devient le patron de Rome. Il est à Alexandrie, en Égypte. Et à ce moment-là, Hérode arrive avec son armée. Tout le monde sait que c'est le copain d'Antoine. Il ne se cherche pas d'excuses. Il se prosterne aux pieds de Octave, qui a 18 ans. Et il lui dit, tout le monde savait que j'étais le copain d'Antoine. Mais maintenant, c'est toi le patron. Je me prosterne à tes pieds. Et là, Octave, il est heureux comme tout. Et il dit, bah, tu sais quoi? Tu m'as éclairé. Il m'avait dit, j'ai givé. Donc, tu restes le roi des Juifs. Je te donne une légion entière. Tu en fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de les payer. Moi, je les paye. Et ils sont ta garde. Tu les utilises comme tu veux. Et oui, parce que maintenant, Octave, il rentre à Rome. Il prend le nom d'Auguste Ier. Il annule la République et devient l'Empire romain. Et il a un allié très puissant à l'Est qui va veiller sur la frontière Est du royaume. Donc, bah, tout va bien pour Hérode. Ce qui va lui permettre de mettre en place son règne, son Chilton. Hérode règne entre moins 37 et moins 4. Et c'est, comment te dire, il y a tout et son contraire dans le règne de Hérode. D'abord, c'est un pourri. C'est un pourri et il veut tout de suite faire comprendre à tout le monde qui est le patron. Et donc, la première chose qu'il va faire, bah, c'est qu'il va faire tuer la moitié du Sanhédrin, la moitié des Rabbanim. Lama, pour bien faire comprendre à l'autre moitié qui est le patron. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça y est, Hérode commence, avec l'appui de Rome, bah, commence tout simplement à construire, à construire, à construire. Hérode est mégalomane, à fond les manettes. Il est, en plus d'être mégalomane, il est également, comment on dit, paranoïaque, et il pense que tout le monde veut le tuer pour prendre sa place. Résultat des courses, eh bien, il va faire tuer à peu près tout le monde. Tous ceux qui sont autour de lui se font tuer. Les historiens romains diront qu'il vaut mieux être un cochon dans l'entourage de Hérode que de sa famille. T'as plus de chances de survivre, les Juifs ne mangent pas de cochon. Mais tous les autres personnages qui entourent Hérode se font massacrer à un moment ou à un autre parce qu'il a peur qu'un jour, ils vont lui prendre sa place. Mais d'un autre côté, En Malasot, Hordus, ben, c'est aussi un constructeur énorme. C'est un constructeur énorme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, d'abord, ces constructions, on peut les trouver partout. Et elles sont tellement monumentales, eh bien, qu'on les voit encore aujourd'hui. Parmi les constructions hérodiennes les plus connues, eh bien, les amis, tout d'abord, faut savoir qu'à l'époque de Hérode, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage parce que tout le monde est employé dans toutes les régions du pays pour construire. Donc, les gens, quelque part, ils détestent le roi, mais ils sont bien contents parce qu'il lui donne, il leur donne à tous de la part d'un ça. Tous les territoires qui avaient été repris à Alexandre, enfin, qui avaient été repris à Oukenos, ça, sont rendus à Hérode. Donc, si tu veux, le royaume de Hérode, c'est un peu plus grand que l'État d'Israël actuel. Donc, c'est grand pour l'époque. C'est un grand pays, un grand royaume. Et il va commencer à construire. Donc, on a dit, il y a plein de choses. Le plus connu, Césarée. La ville de Césarée, la ville et le port en eau profonde de Césarée. Bon, ça, c'est un truc de malade mental. Mais il va construire d'autres endroits. Sébastia, dans le Chomron, dans la Samarie. Il va construire également le temple et la ville de Banias, qui en fait est le temple de Pan. Donc, en fait, ça devrait pas s'appeler Banias, mais ça devrait s'appeler Panias. Mais c'est juste que le Pei n'est pas bien prononcé chez les musulmans. Et pendant très longtemps, c'est eux qui ont été les patrons ici. Donc, ils ont appelé ça Banias. Mais en fait, c'est Panias. Il fait également construire, évidemment, dans la région de Midbar Yehuda, des forteresses. la forteresse du Sartaba, Alexandrion, c'est comme ça qu'il l'appelle. La forteresse la plus connue, ça restera celle de Masada. C'est pas lui qui avait commencé la construction. Mais il en fait une forteresse énorme, avec les palais incroyables de Masada. Le palais nord de Masada, c'est absolument incroyable. Il va faire construire également le Hérodion, bien sûr. Le Hérodion, c'est-à-dire son futur caveau. C'est une montagne, il fait construire une montagne, il est complètement fou. C'est une montagne incroyable, le Hérodion, ça sera son futur caveau. Mais il y fait construire également un théâtre là-bas, un truc de malade. Et évidemment, la grande forteresse qui entoure Meharat Amarpella, la caverne de Marpella, Avraham, Isaac et Yaakov, le caveau des patriarches, des matriarches. Mais bon, quand on parle Hérode et qu'on parle construction, les amis, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Jérusalem. Attends, les constructions hérodiennes à Jérusalem, c'est pas shoot, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, alors, il y a évidemment le plus connu, c'est le Mitram, c'est le complexe du Harabaït et du Beth Amikdash. Ça lui prend 13 ans de construction, 20 000 hommes pour construire ça. C'est le plus grand complexe saint du monde antique. À Rome, ils n'ont pas fait des trucs comme ça. Il fait construire plusieurs murailles de la ville, de Jérusalem, la forteresse d'Antonia, comme on a dit, au nord du Beth Amikdash, les palais de Hérode, évidemment, ce qu'on connaît également comme étant Migdal David aujourd'hui, là, à l'entrée de la vieille ville. Migdal David, c'est en fait les forteresses construites par Hérode. Il y avait 3 tours. Petzael, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Migdal David. Hippicus, Myriam, son autre frère et sa sœur, Syrah de sa femme. Et il fait également construire des aqueducs énormes. À Césarée, on connaît. Mais également, un aqueduc qui va de Brechot Shlomo dans le Gush Etzion jusqu'à Jérusalem, jusqu'au Rabbaït. Donc, c'est vraiment au niveau de la construction quelqu'un d'absolument énorme. Mais c'est aussi un pourri, comme j'ai dit. Non seulement il fait massacrer le Sanhédrin, enfin la moitié. D'un autre côté, il est de plus en plus proche des Romains, à tout le temps, à se rapprocher des Romains. Il fait rentrer des cultes, comme on a dit, le Mikdash de Pan, mais d'autres, des cultes idolâtres en plein milieu de la vie juive. D'un autre côté, il a toujours la volonté de montrer qu'il est le roi des Juifs. Donc pour lui, il va faire venir mettre en place un nouveau système de Kehuna. Les Kohanim Gdolim ne sont plus ni de la maison de Tzadok, ni de la maison de Hashmonaïm, parce que ça fait trop pas penser à l'époque, et donc les gens pourraient être trop nostalgiques à l'époque. Il va piller tout ce qu'il peut piller des trésors du pays pour payer Rome. Et bon, il est également l'homme fort de la région, En Malasot. Donc on a dit, Hérode, c'est un constructeur de génie. Alors, il y a une Agada. Il y a une Agada qui est mentionnée dans le Talmud, dans Masoret Baba Batra, qu'un jour, il aurait rencontré Baba Ben Bouta, un des Chachamim, qui n'a pas tué, mais à qui il a fait crever les yeux. Et il se serait fait passer pour un simple marchand qui lui demanderait, « Et dis-moi, comment il est le roi ?» pour voir ce que les Juifs pensent de lui. Et Baba Ben Bouta lui dit, « Mais en fait, le roi, je n'ai rien à dire de mal sur lui. C'est le roi d'Israël. » Et se rendant compte que finalement les rabbins n'étaient pas contre lui fondamentalement, il se dit que peut-être qu'il a fait une erreur et il demande comment se faire pardonner. Et Baba Ben Bouta lui dit de reconstruire le Beth Amikdash en mode joli. Est-ce que c'est vrai, ça s'est vraiment passé ou pas, l'objané, ou est-ce qu'il a construit le Beth Amikdash parce qu'il était vraiment mégalo? Dans tous les cas, il reconstruit un Beth Amikdash énorme. Donc il faut savoir que le Beth Amikdash de Hérode, nous on appelle ça le Beit Sheni, mais en fait c'est le Beit Shlishi. Parce que les Hashmonaïm avaient déjà embelli le Beth Amikdash de Ezra et Nehemia. Hérode va tout détruire et tout reconstruire. Mais bon, on va appeler ça en hébreu aujourd'hui pinouille-binouille. C'est-à-dire qu'il a tout détruit, mais pour reconstruire juste après. Donc, on ne peut pas parler d'une destruction et d'une reconstruction. C'est des gros travaux. À gaffe, entre parenthèses, Joseph va expliquer que les Juifs de Jérusalem n'ont pas été prêts à participer aux travaux de la reconstruction du grand complexe du Beit Sheni, tant que Hérode n'avait pas d'abord fait amener tous les matériaux de reconstruction pour le Beth Amikdash. À ce moment-là seulement, les Juifs ont dit « Ok, on accepte de tout détruire. » Parce qu'on savait qu'on allait reconstruire. On n'était pas prêt à tout détruire dans l'espoir que peut-être il allait reconstruire. Donc, Bekitsour, Hérode, c'est, si vous voulez, l'âge d'or de ce moment-là. Seulement, Hérode meurt en moins 4. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il meurt, et qu'il est enterré donc au Hérodion, commence le combat pour la succession. Shavua Tov. Je n'ai pas écouté le début du cours, pardon. Mais Hérode n'était pas un descendant de Édom. Si, c'est ce qui a été dit dans le début du cours. Tout à fait. Donc, réécoute après le début du cours et tu verras bien. Bekitsour, une fois qu'Hérode meurt, commence le combat pour sa succession. Et alors là, qui va succéder à Hérode? Eh bien, dans un premier temps, c'est son fils. C'est son fils qui va lui succéder. Il s'appelle Archélaos, mais il ne lui succède pas dans tout le pays. Il ne domine que la région, si vous voulez, de... Comment ça s'appelle la région du centre des montagnes de Judée. Il n'est plus vraiment le patron de Jérusalem et il maîtrise également la Galilée. Il est ethnarque. Il n'est plus Meller, mais il est responsable du peuple. Rosh Ha'am. Amen. Bekitsour, à ce moment-là, c'est le Netziv, le procurateur de Judée, Varus, qui commence à être le patron de la Judée et de la plante côtière. C'est à ce moment-là, après Hérode, que les Romains vont mettre en place des procurateurs, les Netzivim. Et oui, car les descendants de Hérode sont des Laflafim, ne sont pas du tout au niveau. Et donc, finalement, en l'an 6, donc de l'ère chrétienne, Donc, en l'an 6, les Romains, finalement, dégagent Archélaos et vont mettre en place uniquement les Netzivim, les procurateurs de Judée, qui vont être les patrons de la région. Archélaos lui-même est envoyé en exil en Gaule, en France. Et c'est l'époque des procurateurs. Le plus connu des procurateurs de Judée, l'époque des procurateurs va de moins 6 à plus, de l'an 6 à l'an 41. Et si vous voulez, à ce moment-là, eh bien, le plus connu d'entre eux, c'est celui qui était le procurateur entre les années entre les années 26 et 36. Il s'appelait Ponce Pilate. Et oui, Ponce Pilate, c'est celui qui était le procurateur de Judée à l'époque de la crucifixion de Jésus. Voilà, donc ça, c'est une histoire connue, vous la connaissez évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, la maison de Hordus, de Hérode, a un sursaut. Nous sommes en l'an 41, et en l'an 41, eh bien, il y a le petit-fils de Hérode qui va revenir en force, reprendre le pouvoir. Il est puissant, il arrive à dégager les procurateurs de Judée, il devient, pendant 3 ans, le roi d'Israël. C'est un tzaddique, c'est un mec bien, c'est un mec qui est aimé de son peuple, aimé des Chachamim, qui aime les Chachamim, qui aime la Torah. Il s'appelle Agrippas Arishon. Le seul problème, c'est que Agrippas I ne va régner que 3 ans et après, il meurt. Il meurt et il est succédé par son fils, Agrippas II, qui lui est un pourri, laf-laf, un faible, à la domination complète, sous la domination complète de Rome. Et il ne devient plus que le patron, il n'est plus roi, il devient patron du peuple juif en Galilée. Mais en Judée reviennent les procurateurs et ça va être eux les véritables gouverneurs de la Judée. Malasot, eh bien, à ce moment-là, les procurateurs deviennent de plus en plus pourris. Entre 44 et 66, eh bien, chaque procurateur qui se succède est de plus en plus dur, de plus en plus pourri, et va mettre une pression de plus en plus grande sur les Juifs en Judée et en Galilée. Quel que soit le procurateur, il est appuyé par Agrippa Sacheni, qui est complètement à la solde de Rome et qui n'a aucun intérêt à ce que le peuple juif, eh bien, soit bien sur sa terre. Résultat des courses, eh bien, petit à petit, la révolte commence à s'installer dans les cœurs des Béné Israël et elle va finalement éclater en l'an 66. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À bientôt!